VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du lundi 25 mai 2015. À la une ce soir, Burundi, la contestation persiste. Au moins une personne a été tuée aujourd'hui lors de manifestations contre la candidature à la réélection de Pierre Nkurunziza. Consultation politique sur fond de boycott au Congo-Brazzaville en vue d'une modification de la Constitution, ce qui ouvrirait la voie à un autre mandat pour Denis Sassou Nguesso. En Irak, au lendemain d'une cuisante défaite face aux djihadistes de l'État islamique, le Premier ministre Abadi promet la reprise de Ramadi dans quelques jours. Ici aux États-Unis, c'est le jour du souvenir, le Memorial Day. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Les manifestants hostiles au président burundais Pierre Nkurunziza ont de nouveau défié la police ce lundi dans les rues de Bujumbura, mais également en province où au moins un protestataire a été tué par les tirs des policiers. Un bilan fourni par l'AFP. Jacques Aristide.
Le drame s'est produit à Mugamba, dans la province de Bururi. C'est à 60 km au sud-est de la capitale. La police a ouvert le feu sur une centaine de manifestants, rapporte l'AFP. Fusillade qui a donc fait une victime, mais aussi deux blessés. L'incident intervient après un week-end de trêve endeuillé par l'assassinat de l'opposant burundais Zedi Feruzi, une figure du mouvement actuel contre le pouvoir présidentiel. Après sa mort, la coordination anti-troisième mandat a suspendu sa participation à des négociations avec le gouvernement sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Dialogue qui se limitait à des questions autour des manifestations, alors que le cœur du problème, la candidature de M. Nkurunziza à un troisième mandat, n'était pas encore abordée. Un diplomate a laissé entendre que seuls les chefs d'État des pays de la région, qui doivent se retrouver dans les prochains jours, pourraient être en mesure de débloquer la situation. En attendant, le bras de fer se poursuit entre manifestants et forces de l'ordre qui avaient pris position ce lundi dès l'aube dans et autour des habituels quartiers contestataires de Bujumbura pour empêcher tout rassemblement.
Lutte contre Boko Haram au Nigeria. Des avions de chasse nigérians ont bombardé 4 villages occupés par la secte islamiste dans le nord-est du pays, près de la frontière camerounaise. C'est ce qu'indiquent des habitants en fuite et des parents des victimes cités par l'AFP. Il s'agirait des villages de Douwou, Jarawa, Maloum, Maja et Moudou, situés dans l'état de Borno. Les bombardements de dimanche auraient duré 6 heures. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Il est très peu probable que ce soit ait survécu dans ces villages au vu de l'intensité des bombardements, estime un témoin dans un village voisin. Et ceux qui étaient gardés en otage ont certainement péri avec les islamistes, selon les habitants.
Et c'est dans ce contexte que l'on apprend que 10 personnes ont été massacrées à la machette par les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Un responsable local cité par l'AFP souligne que l'attaque a eu lieu vendredi matin dans le village reculé de Pambula Kwamda, dans l'état de l'Adamawa. Les assaillants seraient arrivés dans le village tôt le matin alors que les habitants dormaient encore et ils ont utilisé les machettes pour attaquer leurs victimes.
Au Burkina Faso, l'exhumation du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 lors d'un coup d'État a commencé ce matin à Ouagadougou en présence des familles et de leurs avocats. Claire Morin-Gibour a joint maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara.
Depuis ce matin, effectivement, la procédure donc d'exhumation est en cours. C'est une exhumation placée sous le sceau de la justice, donc la confidentialité judiciaire. Et nous avons là les différents experts nationaux et internationaux qui sont là. Nous avons également la police scientifique et nous avons donc les familles, les représentants des différentes familles et les avocats des différentes familles qui sont présents aussi. Le grand public, lui, est maintenu hors du cimetière, un peu loin donc des travaux.
Qu'attendez-vous de cette exhumation, maître?
C'est d'abord de pouvoir identifier exactement et les restes des différentes personnes qui se trouvent dans le temps, parce qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'exhumation seulement de la tombe de Thomas Sankara, mais il s'agit de l'exhumation de tous les autres compagnons qui étaient à l'esprit. Et ensuite, l'exhumation devrait pouvoir permettre aux juges d'instruction d'avoir des éléments scientifiques sur les causes de la mort. Parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait donc un médecin militaire qui avait donc fait des certificats médicaux, des certificats de décès, attestant que Thomas Sankara, par exemple, était mort de mort naturelle. Mais nous attendons que les résultats de cette expertise puissent non seulement permettre de l'identifier, mais également pouvoir nous dire quelle était la cause probable de la mort.
Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara.
L'Église catholique hausse le ton en République démocratique du Congo dans un message publié à l'occasion de la fête chrétienne de la Pentecôte. Des évêques accusent les autorités de laisser pourrir la situation dans l'est du pays. Ils s'insurgent notamment contre la série de massacres commis depuis octobre dans la région de Beni, dans le Nord Kivu, et ayant débordé jusqu'aux confins de la province orientale voisine.
Conflit au Soudan du Sud, l'armée affirme avoir repris le plein contrôle de la ville stratégique de Malakal, capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil. Les forces ennemies ont été complètement détruites, assure l'armée sud-soudanaise, citée par l'AFP. Plus sur cette guerre qui oppose les forces loyales au président Salva Kiir, aux rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar. Ça sera en seconde partie de notre émission.
Fusillade dans une caserne de Tunis, un caporal de l'armée a tué ce lundi 7 de ses camarades avant d'être abattu selon l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a dit que la ville de Ramadi sera reprise aux islamistes dans les prochains jours, non pas dans des semaines. Nathalie Barge.
Dans une interview avec la BBC, le dirigeant irakien a admis que les islamistes ont débordé les forces militaires dans un recul spectaculaire qui a incité dimanche le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, à questionner la volonté de l'Irak de vaincre le groupe État islamique. Mais M. al-Abadi a exprimé sa confiance dans la capacité de son pays à repousser la nouvelle ligne de front dans le conflit. Ce sera dans les prochains jours, je peux vous assurer, ils ont remporté cette bataille, cela ne veut pas dire qu'ils ont gagné, a-t-il affirmé en réponse à Ashton Carter, qui avait douté de la volonté du gouvernement irakien. Ce qui s'est passé apparemment est que les forces irakiennes n'ont montré aucune volonté de se battre, a déclaré dimanche M. Carter, ajoutant qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les islamistes. La conseillère à la sécurité nationale américaine, Susan Rice, a fait écho aux préoccupations du secrétaire à la défense sur la chaîne CBS. Les forces de sécurité irakiennes font face à leurs propres défis internes. C'est une force inégale en termes de volonté, d'équipement et de leadership, a déclaré Mme Rice, ajoutant que les États-Unis travaillent avec eux pour répondre à ce qu'elle a qualifié de faiblesse. Peu de temps après les déclarations des officiels américains, le président de la commission de la défense et de la sécurité du Parlement irakien, Hakim al-Zamili, a dit à Associated Press que les commentaires d'Ashton Carter sont irréalistes et sans fondement. Selon lui, les États-Unis essaient de rejeter la faute sur l'Irak après l'échec de Washington à fournir un bon équipement, des armes et un soutien aérien, a rétorqué M. Zamili.
La Turquie est d'accord en principe avec les États-Unis sur une protection aérienne pour les rebelles syriens qui sont en stage de formation afin de lutter contre le groupe État islamique. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre turc des Affaires étrangères. Pendant ce temps, en Syrie, les forces gouvernementales ont mené au moins 15 frappes aériennes contre les combattants du groupe État islamique dans la ville historique de Palmyre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres.
Au moins 430 personnes ont trouvé la mort en Inde dans une vague de chaleur atteignant jusqu'à 50 degrés centigrades. Des précisions avec Eddie Sango.
Ces chiffres sont provisoires car, selon les autorités indiennes, les bilans pourraient s'aggraver étant donné que les mercures tendent à rester autour des 50 degrés Celsius. Les états du Telangana et de l'Andhra Pradesh, voisins de New Delhi, la capitale, sont les plus touchés. Des coupures d'électricité y sont fréquentes. Un haut responsable de la gestion des catastrophes naturelles de l'état d'Andhra Pradesh, P. Tulsi Rani, a dit à l'AFP que la majorité des victimes ont été exposées directement au soleil, avait 50 ans ou plus et était issu de la classe ouvrière. Dans les Telangana, 188 personnes sont mortes, la plupart en milieu de semaine passée, mais le bilan, qui doit encore être confirmé, continue d'augmenter, a déclaré à l'AFP Devani, un responsable de l'unité de gestion de catastrophes de cet État. B.R. Meena, haut responsable de l'État de Telangana a reconnu que la vague de chaleur actuelle était légèrement plus forte que d'habitude. Chaque année, la chaleur tue des centaines de personnes en Inde, principalement parmi les plus pauvres. Les autorités exhortent la population à ne pas travailler trop longtemps sous le soleil. Il est aussi recommandé de porter un chapeau, de boire beaucoup d'eau et de porter des vêtements en coton.
Des avions de combat américains ont escorté un appareil d'Air France jusqu'à son atterrissage à New York ce lundi, après une menace anonyme à l'arme chimique. Selon les responsables d'Air France, les passagers ont débarqué normalement et une inspection de l'avion était en cours en début d'après-midi.
Au moins 3 morts et 400 maisons détruites. Tel est le bilan des inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont déversées ce week-end sur les États du Texas et de l'Oklahoma. Au Texas, plus de 2000 personnes ont dû évacuer leur résidence.
C'est Memorial Day ce lundi ici aux États-Unis, la journée du souvenir, une journée fériée et chômée qui honore la mémoire des soldats tués au combat. Elle est marquée par des défilés, des concerts patriotiques et diverses cérémonies. À Washington, le président Barack Obama a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d'Arlington. En présence de plusieurs dignitaires et familles de vétérans de l'armée, il a salué les sacrifices consentis pour préserver la liberté aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le 1% culturel au Burkina Faso, c'est un projet de loi qui va être présenté au CNT par l'Institut Free Afrique, qui assistera à une conférence à Ouagadougou demain pour défendre la production et la vente des artistes locaux. David Fanon de Free Afrique expose le cas du mobilier acheté à l'étranger par les administrations burkinabées.
Quand nous allons dans nos bâtiments administratifs, souvent on constate que le mobilier de bureau, les tableaux qui décorent les murs, les rideaux et tout ça sont achetés en Asie. Ce qui ne permet pas à nos artistes et les artisans ici qui sont dans l'artisanat d'art de vivre de leur art. Pourtant, l'État aurait pu, en exigeant qu'on achète leurs œuvres, leur permettre de vivre décemment de leur art et également mettre en valeur ce qu'ils font.
La croissance en Afrique devrait se raffermir en 2015 et 2016 à 4,5 et 5 % des niveaux proches de ceux d'avant la crise mondiale de 2008-2009. C'est un extrait du rapport sur les perspectives économiques de l'Afrique lancé ce lundi par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Abidjan, rapporte le journal en ligne Fatmat Info. Le document expose les obstacles auxquels sont confrontés les dirigeants africains et les facteurs susceptibles d'entraver le retour au niveau soutenu d'avant la crise.
La Minute Éco, c'est avec Nathalie Barge.
Et les sports, c'est avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, est-ce que c'est vrai, Didier Drogba quitte Chelsea?
Eh bien, il a annoncé hier, hein, l'ancien attaquant des éléphants âgé de 37 ans, a donc annoncé hier qu'il quitterait Chelsea à la fin de la saison et qu'il entendait jouer encore un an, au moins dans un autre club, avant de prendre sa retraite. Disons que pour son dernier match hier avec les Blues contre Sunderland, qui était aussi son dernier à Stamford Bridge, il a porté le brassard de capitaine. Cette saison, il a inscrit 7 buts en 39 matchs, hein, toutes compétitions confondues, mais compte seulement 13 titularisations. Auteur du doublé championnat-coupe de la Ligue cette saison, l'ex-joueur de l'Olympique de Marseille aura donc remporté 14 trophées majeurs avec le club londonien. En août, il a mis fin à sa carrière internationale avec les éléphants de Côte d'Ivoire, hein, après avoir inscrit 5 buts en 104 matchs.
Et quant à Hervé Renard, il est le nouvel entraîneur de Lille.
Oui, le club de Ligue 1 en France a officialisé ce lundi sa nomination. Il signera un contrat de 3 ans demain mardi.
Alors, parlons basket, Bagassi Koura, playoffs.
Oui, les Clevelandais, Cleveland Cavaliers ont pris un avantage sans doute décisif dans la finale de la conférence Est face à Atlanta en remportant une troisième victoire consécutive 114 à 111 en prolongation dimanche. Les Cavaliers peuvent se qualifier dès mardi pour leur première finale NBA depuis 2007, la deuxième de leur histoire. S'ils remportent le match numéro 4 toujours dans leur salle, pour LeBron James, ce sera sa cinquième finale consécutive. Eh bien, s'ils vont en finale, ce sera bien sûr grâce à lui. Hein.
Oui, définitivement. Il a réalisé un miracle à Cleveland cette année. Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Robin Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Pour notre premier dossier ce soir, nous nous rendons à Brazzaville.
Et c'est demain, mardi, que reprendront les consultations politiques convoquées par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Des rencontres qui suscitent peu d'engouement. L'opposition et certaines formations politiques de la majorité, comme le RDPS, ayant choisi de boycotter l'appel du chef de l'État. Nguelan Goussou, notre correspondant à Brazzaville, a rencontré ceux qui disent non à ces consultations.
La semaine dernière, le président Denis Sassou Nguesso a reçu quelques responsables politiques comme Guy Brice Parfait-Kolela, Elo Matson Mampouya ou Nick Fila. Les principaux partis de l'opposition, eux, ont fait la fine bouche. Honoré Tsaï, le porte-parole de l'UPADS.
L'UPADS a choisi de dire non à l'appel du président de la République. Non pas par irrévérence, mais par conviction de ce que cette initiative ne répond pas à la préoccupation du peuple congolais.
Pour Jean Itadi, président du Congrès africain pour le progrès, il ne s'agit pas de tomber dans le piège du pouvoir.
Le jour où le président Sassou annonce le dialogue et pas les consultations, et qu'il nous appelle pour dire « venez, le dialogue est annoncé, préparons ce dialogue parce que nous avons besoin tous d'aboutir, nous serons présents ». Mais si c'est des manœuvres pour faire croire que les consultations pourraient être un dialogue ou des manœuvres pour nous faire porter sa décision d'aller au changement de la Constitution, nous ne sommes pas d'accord. Dialogue, oui, manœuvre, non.
La société civile fissurée s'exprime de voix diverses. Alors que l'œil du peuple de El Hadji Brahim Boupal remit une copie de la nouvelle constitution au président de la République, Trésor Nzila Kende de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH, estime que cette initiative de consultation est illégale.
Quel est le contenu de ces consultations? C'est pour aboutir à quoi? Toutes ces choses ne sont pas claires. Étant donné que nous sommes dans une situation aussi particulière, caractérisée par une volonté manifeste d'aller vers le changement de la Constitution pour briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Et donc nous pensons que ces consultations ne sont autres que des manœuvres pour atteindre cet objectif.
Nguelan Goussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
L'ONU est profondément inquiète des conséquences catastrophiques des combats intenses au Soudan du Sud pour les populations civiles. L'ONG Médecins Sans Frontières aussi. Les affrontements entravent en effet le déploiement de l'aide humanitaire et certains des personnels soignants de MSF ont dû se réfugier dans les marais avec leurs patients pour échapper aux violents combats. Claire Morin-Gibourg a joint Lucie Le Carpentier, responsable des affaires humanitaires pour Médecins Sans Frontières à Djouba, au Soudan du Sud.
Donc au cours des dernières semaines, les équipes de Médecins Sans Frontières, notamment à Benchou, à l'intérieur du site de protection des civils de l'ONU, à l'intérieur duquel on a un hôpital, on a vu arriver plus de 14 000 personnes au cours des dernières semaines, principalement des femmes et des enfants qui fuyaient les combats et la violence. On a vu arriver des familles, des femmes, des enfants épuisés après avoir dû se cacher pendant des jours dans les marécages pour échapper aux combats. On est particulièrement inquiet aussi, notamment du sort des centaines de milliers de déplacés qui n'ont aucun accès à l'aide humanitaire et médicale.
Des conditions qui sont également très difficiles pour votre personnel et notamment dans des conditions de travail particulièrement dangereuses. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'ils vivent?
Effectivement, ce sont des conditions difficiles. Donc notre personnel local de l'air durant le week-end passé a dû s'enfuir dans les marécages avec certains des patients que MSF traitait au moment même. On est en contact avec eux, on sait qu'ils se sont réfugiés dans les marécages pour échapper à la violence. On est inquiet pour leur sort. mais aussi pour le sort des centaines de milliers de déplacés. Les conditions de travail pour MSF sont également difficiles dans les sites de protection des civils de l'ONU, puisque ces sites n'ont pas été épargnés par l'avalanche. Parfois, il y a eu des combats très, très, très proches de ces sites, et nos équipes ont dû se réfugier pendant plusieurs heures dans des abris, alors même qu'il y avait des tirs de but et des échanges de tirs à proximité.
Est-ce que cela veut dire que vous pourriez être obligé d'évacuer si la situation devenait trop dangereuse ?
Nous avons déjà dû quitter l'air. Nous avons déjà dû évacuer notre personnel il y a 2 semaines. Suite à ça, le personnel local s'occupait des patients des MSF, mais ils ont dû fuir à leur tour. Donc il n'y a plus de service de santé pour la population de l'air. On parle de plus de 210 personnes. Évidemment, on appelle l'ensemble des parties au conflit de respecter le personnel humanitaire et médical, à respecter les infrastructures de santé, les hôpitaux, puisqu'on sait que plusieurs hôpitaux, notamment l'hôpital de l'air, l'hôpital de MSF à l'air, ont été la cible de violences aussi, de destruction, de pillage, et ont été brûlés.
Lucie Le Carpentier de l'ONG Médecins sans frontières, jointe à Djouba au Soudan du Sud.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Coup d'œil ce soir sur la campagne d'un jeune conseiller municipal français de 35 ans contre le gaspillage alimentaire. Élu il y a tout juste un an à Courbevoie, Arash Daram Barsh a décidé de lancer une initiative pour aider les SDF, mais aussi de nombreuses familles de la classe moyenne qui ont du mal à joindre les deux bouts. Un constat a retenu son attention, le gâchis dans les supermarchés. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce sujet avec Arash Daram Barsh.
Chaque supermarché jette entre 20 à 40 kilos de nourriture par soir minimum. Ils mettent de l'eau de Javel sur la nourriture consommable. Donc moi, j'ai demandé en fait que les supermarchés puissent, au lieu de jeter leur nourriture consommable à la poubelle, donner ça à une association de leur choix pour que chaque association puisse distribuer la nourriture. Donc je suis allé demander à Monoprix, à Franprix, ils m'ont refusé. Je suis allé demander ensuite à Carrefour. Et moi, le problème, Timothée, c'est que je n'avais pas, vous savez, la logistique et la chaîne du froid. Je n'avais pas le local pour stocker la nourriture. Donc, j'ai contourné la loi parce que je suis allé à 20h30, une demi-heure avant la fermeture, récupérer la nourriture et j'ai fait une distribution immédiate le soir même. Je n'ai pas stocké la nourriture, mais j'ai pris la nourriture avec les bénévoles et j'ai donné la nourriture tout de suite le soir même.
Quel accueil a été réservé à votre initiative ?
Ben, très bonne, puisque c'était de la distribution immédiate. C'était pas la peine d'attendre le lendemain, d'aller au Resto du Cœur, par exemple, parce que dans certaines associations, il faut donner ses fiches de paye. Et parfois, on est trop riche pour être pauvre. Ça veut dire que quand même, si vous gagnez pas beaucoup d'argent, vous gagnez trop pour obtenir de la nourriture dans certaines associations. Moi, avec l'initiative que j'ai faite, c'était pour tous ceux qui avaient envie de manger, sans discrimination. Et comme il n'y a pas de cadre légal sur la distribution immédiate le soir même, j'ai fait une pétition le 19 janvier avec Mathieu Kassovitz sur change.org et on a recueilli plus de 210 000 signatures. C'est la plus grande pétition de l'histoire écologique, environnementale et agriculture pour une pétition en ligne. Et j'ai voulu en faire une loi qui a été votée. Et en même temps, donc on a eu deux auditions, deux commissions parlementaires en janvier et en février. Et ensuite, j'ai été reçu à l'Élysée le 5 mai. Le président de la République, François Hollande, m'a apporté son soutien. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en parallèle, je voulais décliner ça à l'international. Donc, j'ai demandé à One France. One, c'est l'ONG fondée par Bono, le chanteur de U2, parce que je sais que Bono se bat beaucoup contre l'endettement en Afrique, contre la misère et la pauvreté, la famine en Afrique. Donc, j'ai voulu, en fait, en faire un projet international pour que tout le monde puisse manger à sa faim.
Voilà, c'était Arash Daram Barsh, conseiller municipal de Courbevoie en France.
Ce dernier lundi du mois de mai ramène la fête du Memorial Day, jour du souvenir ici aux États-Unis. Pour de nombreux vétérans de guerre américains, c'est l'occasion de revenir sur un conflit, la guerre du Vietnam, qui a profondément divisé l'opinion et causé des blessures morales. C'est aussi un temps fort où la nation se souvient de ceux qui ne sont pas revenus du champ de bataille. Catherine Gibson, de la salle des nouvelles de la Voix de l'Amérique, a préparé ce reportage que nous présente ici à Caba.
Depuis 1987, des centaines de milliers de motocyclistes à travers les États-Unis font chaque année le pèlerinage appelé Rolling Thunder. Leur lieu de rendez-vous, le monument dédié aux soldats de la guerre du Vietnam dans la capitale de la nation. Un endroit qui évoque les émotions intenses entourant ce conflit, comme l'explique Sharon Rink, un vétéran de l'armée américaine.
Certaines des personnes qui viennent ici se rendront au mémorial pour la première fois. Des gens qui ont des amis, dont les noms sont inscrits sur le mur. Ceux qui ont fait le service militaire avec des gens dont les noms sont inscrits sur le mur.
Au cours des 50 années depuis le début des opérations militaires américaines au Vietnam, les vétérans de cette guerre ont observé un changement radical dans les attitudes du public. Plus de 58 millions d'Américains sont morts dans ce conflit. Ceux qui sont revenus au pays ont dû faire face à des expressions de ressentiment et même d'hostilité. Clay Scott, l'un des participants au Rolling Thunder de 2015, se souvient de cette époque. Il raconte comment les gens lui lançaient des propos injurieux, l'accusant d'avoir tué des bébés au Vietnam. Alors, dit-il, j'ai immédiatement enlevé l'uniforme, j'ai pris ma moto et je suis rentré chez moi aussi vite que je le pouvais. Ce fut un accueil froid que Jerry Martin ne peut pas oublier.
J'ai compris qu'une très grande partie de notre population estimait que ce que nous avions fait était mal.
Jerry Martin a reçu deux distinctions, deux médailles, l'étoile d'argent et le Purple Heart pour ses actes héroïques lors d'une embuscade pendant la guerre du Vietnam.
Nous étions littéralement coincés, impossible de bouger. C'est alors que j'ai vu trois soldats ennemis descendre. Évidemment, ils nous cherchaient et j'ai pu faire en sorte que ces trois soldats n'atteignent pas notre position.
Mais cela n'a rien changé à la colère qui l'attendait à son retour aux États-Unis.
Comme par exemple regarder une voiture traverser trois voies sur l'autoroute pour venir vers moi et m'éclabousser.
Cependant, fait remarquer cet ancien combattant, les attitudes à l'égard des vétérans du Vietnam ont changé.
À certains égards, on nous vénère comme des héros que nous n'étions pas auparavant.
Le passage du temps et une nouvelle génération d'anciens combattants, de la Grenade, de Panama, de l'Irak et de l'Afghanistan, ont contribué à ce changement. On se sent très loin du rejet d'il y a 40 ans et on parle aussi du Vietnam, sans oublier ses leçons.
Merci, ici à Caba. Et pour revenir sur le bilan de la guerre côté américain, il s'agit de 58 000.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Au Burundi, la contestation persiste. Au moins une personne a été tuée aujourd'hui lors de manifestations contre la candidature à la réélection de Pierre Nkurunziza.
Lutte contre Boko Haram au Nigeria. Des avions de chasse nigériens ont bombardé quatre villages occupés par la secte islamiste dans le nord-est du pays, près de la frontière camerounaise.
Et c'est dans ce contexte que l'on apprend que 10 personnes ont été massacrées à la machette par des islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria.
Au Burkina Faso, exhumation du corps du président Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons assassinés en 1987. lors d'un coup d'État.
Conflit au Soudan du Sud, l'armée affirme avoir repris le plein contrôle de la ville stratégique de Malakal, capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil.
Promesse du premier ministre irakien Haider al-Abadi, la ville de Ramadi sera reprise aux islamistes dans les prochains jours, non pas dans des semaines. Attendons voir.
Et cette émission touche à sa fin. À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagnot. Présentation Morgane Diriec et Chérubin Dorsil.
On remercie M. Chang à la console. Voilà, ainsi va le monde aujourd'hui. Restez en notre compagnie sur Facebook et sur voaafrique.com. Ciao.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.